Radio Chablais.
Les Barbouzes.
Les Barbouzes.
Une étude historique et objective. Un réquisitoire sévère, mais juste. Mais il n'est pas de tragédie qui ne soit traversée par quelques rayons de soleil.
Radio Chablais.
Les Barbouzes. Florian Barbet.
Bonjour, bon dimanche, bon anniversaire maman et bienvenue dans Les Barbouzes. Avec moi cette semaine, Les Barbouzes. Christian Chulet, bonjour.
Bonjour, bon anniversaire papa.
Bref, très bien. Oh là là. Guillaume Abbey, bonjour.
Bonjour. Voilà.
Mathieu Bessereau-Belty, bonjour.
Bonjour et joyeux anniversaire Élise.
Il a voulu voir Velou. Ça va, bon, allez, hop. Reset. Il a voulu voir Vesoul et il a vu Vesoul. Il aurait pu choisir Vierzon, Honfleur, Hambourg, Anvers ou sa sœur, mais il a choisi Vesoul. Et comme un hommage sans doute à l'absurde proposition de Jacques Brel, comment peut-on vouloir voir Vesoul? Puis d'abord, c'est où Vesoul? Eh bien, Vesoul, c'est le centre du monde. Voilà, bonjour Quentin Mouron.
Bonjour.
Vous publiez chez Olivier Moratel Édition votre sixième roman, Vesoul, le 7 janvier 2015. Vous avez trouvé à Vesoul votre centre du monde?
Bon, c'est moins central que Montaigne, mais c'est quand même déjà une grosse bourgade. Et puis, je crois que c'est surtout un nom qui m'a fasciné et une image plus qu'une véritable ville.
Il n'y a pas de passion de Brel à l'origine, mais il y a quand même ce mot qui a été popularisé par Brel et qui fait qu'on peut en faire quelque chose. Personne ne sait où c'est, par contre tout le monde a entendu parler de ce bled.
Oui, c'est l'avantage. Et moi j'ai toujours travaillé sur des noms plus que sur des lieux. C'est-à-dire que même dans mes précédents romans, j'indiquais un lieu au Nevada, j'indiquais une banlieue de Boston. Parfois j'étais allé, parfois non. Au fond, c'était pas très grave parce que tout était inventé. Tout ce qui m'intéresse, c'est vraiment la situation qui est créée par les échanges entre les personnages. C'est vraiment ce qui s'y passe, mais ce qui pourrait aussi se passer ailleurs, en tout cas dans toute l'Europe de l'Ouest, certainement. Donc, pour moi, Vesoul n'est pas quelque chose de central. C'est pas. Je vais peut-être bientôt aller à Vesoul justement présenter le livre parce que forcément, ça attise quand même la curiosité des autorités. Alors peut-être qu'ils vont me garder en cachot, mais disons.
Il y a de la lapidation dans l'air.
Il y a peut-être un peu de lapidation dans l'air. C'est peut-être juste une manière d'en finir avec moi. Mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de. Les gens ne retrouvent pas Vesoul si tant est qu'ils connaissent Vesoul et qu'ils y soient allés. Donc
c'est pas mon cas, mais bon, j'imaginais que.
Le motel l'hôtel Formule 1, il y a des pour 30€, on s'en sort. Par contre, c'est vrai que moi, au fond, je fais pas tellement de pittoresque, ça m'intéresse pas tellement de faire voyager le lecteur. Il y a des guides de routard pour ça, il y a Google, il y a TripAdvisor, ça fonctionne mieux qu'un roman. En plus, on peut noter, il y a des étoiles, c'est sympa. Tandis que moi, ce qui m'intéresse, c'est autre chose. C'est vraiment justement les situations, surtout qui sont créées entre les personnages, c'est tout ce qui s'y produit et ce qui aurait pu bien sûr se produire ailleurs. Parce que j'ai copié aussi des éléments, copié entre guillemets, ou réécrit ou recréé des événements qui bien sûr ne sont jamais produits à Vesoul, mais qui se sont produits
un peu
partout
ailleurs. Parce qu'à Vesoul, vous avez trouvé un festival de poésie, un festival du foutre, des bagarres de rue, des nazis, des nains, des véganes, le Hezbollah, vraiment tout.
Bon, il y a peut-être tout ça en vrai, mais disons, en tout cas, je ne les ai pas vus quand j'y suis allé, mais je me suis contenté d'un magasin russe et d'un bouchon lyonnais.
Le bouchon lyonnais de Vesoul, où l'on boit du vin jaune, j'imagine. Le portrait cette semaine, c'est Christian Chulet.
Montait le 3 février 2019, lorsque l'on accueille Quentin Mouron, il suffit d'un lieu et d'une date pour que s'ouvrent des perspectives romanesques. Mais avant le roman, la biographie, ou du moins une tentative de portrait. Quentin Mouron, homme de lettres. Votre première apparition médiatique ne doit cependant rien à votre talent précoce. Elle a lieu le 17 août 1989, non pas dans la rubrique littéraire, mais au chapitre « Naissance de l'état civil de Lausanne », page 26 du journal 24 heures. Les lecteurs apprennent avec ravissement la naissance du petit Quentin, fils de Didier et Isabelle, qui a vu le jour le 29 juillet. Le poids et la taille de ce bébé prometteur, aujourd'hui arrivé aux portes de la trentaine, ne sont pas précisés, et c'est pas faute d'avoir cherché. 3 ans après votre naissance, la tribu Mouron largue les amarres et émigre au Québec.
Ma cabane au Canada.
Seigneur.
Est blottie au fond des bois.
Il nous a fait cela.
On y voit des écureuils sur le seuil.
C'était incontournable. Lynn Renault, 1949, parole de Mireille Grosset. Bon, c'était pas la même génération d'écureuils quand vous y étiez, quand un Mouron. Mais il y avait quand même des écureuils, j'imagine.
Sur le seuil.
Exactement. Donc une enfance solitaire au pays des caribous, dans un lieu dont le nom résonne comme l'antichambre du paradis, Notre-Dame de la Merci. Vous y puiserez la matière et le titre de votre deuxième roman. Mais bon, ce n'est pas tout de jouer à Davy Crockett et de taquiner la moufette. Retour en terre vaudoise pour entamer le troisième millénaire, terminer vos scolarités et commencer le gymnase. Vous êtes un lecteur avide. Lire encore et toujours. De Racine à Frédéric Dard en passant par Balzac, votre préféré, Flaubert et tant d'autres. Mais aussi écrire. Vos premiers élans littéraires prennent la forme de poèmes, puis de nouvelles. Voyager. Après une année de gymnase, vous mettez le cap sur les États-Unis. La maturité peut attendre. Partir pour mieux revenir et encore mieux repartir. Les États-Unis toujours. Il vous inspire votre premier roman, Au point d'effusion des égouts, paru en 2011 et récompensé l'année suivante par le prix littéraire des Alpes et du Jura de l'Association des écrivains de langue française. Depuis lors, vous avez obtenu un master en français moderne et philosophie à l'Université de Lausanne, publié 6 romans, dont 2 ont été traduits en allemand et 1 en anglais, et rédigé un nombre incalculable de chroniques. Pas un média ne vous échappe, Quentin Mouron est partout, il a un mot sur tout. Que celles et ceux qui s'apprêteraient à vous lire soient prévenus. Nul ne saurait prétendre à l'excellence s'il n'est pas prêt à emmerder le lecteur. Tels sont vos propos. Il y a chez vous de l'irrévérence et de la provocation, mais pas uniquement. Vous vous définissez comme entier, énergique, au caractère particulier, sans limite, distrait et un peu coquet. Vous faites rimer lecteur et séducteur en plaçant côte à côte les femmes et la lecture dans la catégorie sport, hobby, passion du désormais fameux questionnaire des barbouzes. Et je terminerai avec une question digne d'un sujet de dissertation. Dans le quotidien La Région Nord-Vaudois, vous évoquez une époque contemporaine aux allures d'empire décadent avec un côté, je cite, « fin de règne sans qu'un autre règne ne vienne ». Et la question la voilà. Dans quelle mesure l'œuvre littéraire de Quentin Mouron fait-elle écho aux propos de Michel de Montaigne qui déclarait dans ses essais il y a plus de 400 ans que le fait d'écrire l'escrivaillerie semble être quelques symptômes d'un siècle débordé. Ramassage des copies dans 45 minutes.
Oh Seigneur. On va réfléchir.
On est déjà débordé nous-mêmes, donc le siècle attendra.
Mais la chronique du monde, ça c'est vrai, vous êtes un chroniqueur, vous l'avez été sur plusieurs plateaux, dans plusieurs feuilles. Et puis vos romans, alors je ne les ai pas lus, mais j'ai lu le dernier attentivement, c'est une chronique du monde.
Oui, je crois qu'il y a vraiment, c'est le monde qui est convoqué plus encore que Vesoul. Hein. Vesoul est dans tout, tout est dans Vesoul. Non seulement je l'ai écrit, mais je le cite encore parfois parce que j'aime bien me citer. Au moins, je suis certain. Chez Montaigne, on tombe pas toujours juste, tandis que chez moi, au moins, on est sur du produit. Et oui, je crois que c'est vraiment un roman monde, c'est-à-dire que je m'interroge quand même sur ces grands mouvements qui martèlent aussi notre quotidien, même à nous, même si on ne ressent pas toujours les effets directement, que ce soit ce grand schisme au fond que j'essaye de mettre en scène, entre d'une part ceux que j'appelle les picaros, c'est-à-dire des gens qui ont accès à la mobilité, donc qui sont en fait les gagnants de la mondialisation, comme on les appelle parfois dans des traités de philosophie ou de sociologie, donc on est du côté des gagnants, moi je me suis mis du côté des gagnants, avec le narrateur Saint-Preux, et puis de l'autre côté, il y a tous ceux qui sont ce qu'on appelait les perdants, c'est-à-dire les enlisés ou les bloqués.
Qui sont les gilets jaunes aujourd'hui, c'est clair.
Alors en fait, oui, je pense qu'il y a vraiment un lien avec le mouvement des gilets jaunes, parce qu'au fond, on dit que les gilets jaunes bloquent les autoroutes, mais au fond, c'est eux qui sont bloqués depuis de nombreuses années déjà, parce qu'au fond, quand une entreprise... C'est ce qu'avait Zygmunt Bauman avait relevé, hein, c'est que au fond le capital est toujours très mobile et les ouvriers eux ne sont pas très mobiles, même si on parle de travailleurs détachés, on a toutes sortes de...
Même si on leur dit qu'ils peuvent aller bosser en Tchéquie pour le cinquième de leur salaire
Bien sûr, ils peuvent toujours y aller, mais bien sûr c'est beaucoup plus compliqué que de vider un compte dans une banque et de rouvrir une usine à côté que de plier bagages quand on a une famille, de toute façon, même si pour aller voyager dans le bled d'à côté. Donc, au fond, cette espèce d'affrontement ne dégénère pas d'ailleurs tout forcément en guerre civile, hein, ça c'est un peu le côté Welbeck, mais ça dégénère en tout cas, ça peut dégénérer, et ça donne forcément des tensions. L'appauvrissement, de toute façon, de toute une frange de la population n'est jamais bon, ni pour la démocratie, ni même d'ailleurs pour les possédants, parce qu'au bout d'un moment, alors, le cercle, au fond, de ceux qui ont les moyens de se protéger de cette masse en colère se restreint de plus en plus. Ils ont de plus en plus de moyens, mais ils sont de plus en plus restreints. Et bien sûr, ça n'échappe, plus personne n'y échappe, pas même ceux qui normalement seraient à l'aise financièrement.
On va revenir à l'argument de votre roman. Vous l'avez esquissé là, mais c'est Saint-Preux, hein, ce cadre d'une banque qui part à un congrès, qui prend en autostop le narrateur. Et Saint-Preux va être le symbole finalement de ces picaros, ce que vous appelez les picaros, on va le dire pourquoi dans un instant, mais de ces gens hyper connectés, hyper bien dans leur monde, peut-être pas si bien que ça d'ailleurs, mais qui se forcent à le croire en tout cas.
Oui, je pense vraiment que c'est là aussi, c'est vraiment le thème principal du roman, c'est qui sont ces gens qui ont vaincu la mondialisation. C'est pas forcément que des gens riches, hein, d'ailleurs. C'est pas forcément même les plus riches, parce qu'on trouve aussi dans mes évaporations picaresques, si j'ose dire, des artistes qui sont ou des étudiants en art, des étudiants tout court, hein, qui ont aussi par des Erasmus une possibilité d'être très mobiles et d'aller au fond où les choses bougent.
Hein, ils peuvent aller à Berlin. Par leurs parents.
Voilà, par leurs parents aussi. Erasmus et les parents, je crois que je ne sais même plus s'il y a encore des Erasmus, mais en tout cas, il y a encore des parents, normalement. Et donc, qui ont aussi cette mobilité, cette facilité à traverser, à sauter les frontières, alors qu'on voit bien que même en Europe, si on dit qu'il n'y a plus de frontières, les frontières, l'épaisseur des frontières est toujours relative, hein, quand on est... migrant du Nigeria, la frontière est plus épaisse que quand on est cadre dynamique ou quand on est étudiant en art
ou étudiant à l'EPFL. Et qu'on va aller s'installer aux États-Unis
ou que
ce soit. Bon, ces gens-là, c'est la différence qu'il y a entre le week-end à Barcelone justement la possibilité de pouvoir sortir ou pas de son univers. En
les
général,
problèmes gastriques de son sujet.
Voilà. Alors, il y a des travaux. Vous avez raison, Guillaume, il faut expliquer les choses. Il y a des travaux dans la maison,
des coliques.
Ça nous perturbe
un petit peu. Vraiment, on va tout de suite appeler Blaise Caron parce qu'il y en a qui bossent le dimanche, c'est pas possible. Ça.
Bon, du coup, je sais plus où j'en suis. On va revenir sur l'idée de ce roman picaresque. Hein. Vous citez ça en disant j'ai voulu renouer avec une tradition. C'est une tradition du roman espagnol du XVIe siècle. Oui. C'est des romans de ratés sublimes en général. Vous mettez les picaros, les héros dans le camp de ceux qui ont réussi, mais ils sont pleins de doutes dans le fond aussi.
Oui. Mais ce sont quand même des gagnants sublimes, avec tout ce que le mot sublime peut comporter aussi d'imbécilité sous-jacente. Ouais. Hein, parce que l'idiot sublime, c'est toujours celui qui est d'une part idiot, mais qui est en même temps ravi. Et là, ce sont des personnages qui sont ravis d'eux-mêmes, qui sont très pleins d'eux-mêmes, hein, mais qui sont au fond vraiment emportés par ce mouvement, qui dominent ce mouvement, et qui sont en fait des picaros qui réussissent. Parce qu'en fond, pendant longtemps, en tout cas au XVIe siècle particulièrement, dans ces romans espagnols, celui qui avait accès à la mobilité était justement celui qui était déclassé, parce que c'est celui qui n'avait pas de terre, c'est celui qui n'avait pas d'attache, c'est donc celui qui n'avait pas aussi d'ancêtres, qui ne s'était pas fait un nom, qui ne possédait absolument rien, donc il marchait sur les routes, et puis il lui arrivait toutes sortes de choses, généralement il était un petit peu criminel, mais en même temps aussi parfois plein de bons sentiments, face à la veuve et à l'orphelin, donc c'était des personnages quand même très ambigus, très marginaux, et là bien sûr c'est le contraire. Au fond, la marge est passée au centre et le mouvement est vraiment ce qui est glorifié. Aujourd'hui, je pense que c'est même pas tellement la richesse, ou même, bien sûr, le patrimoine familial est toujours, mais c'est plutôt la capacité à se mettre en mouvement qui est, me semble-t-il, valorisée, tant dans le monde de l'entreprise que, en général, dans le monde social. En général, on est plus facilement lié, on se lie plus facilement si on a la capacité de rapidement prendre le train, de rapidement prendre un avion, de rapidement se répandre, au fond, à travers les méridiens.
Et de partir en congrès un petit peu partout sur la planète, c'est ce qui arrive à nos deux héros. Le roman picaresque, vous en chopez quelques traits comme ça. Hein. Ben, y a de la cape et d'épée d'abord. C'est voilà. Souvent des romans de cape et d'épée. Il y en a dans Vesoul. Le chapitre qui commence par « Où le héros hein. ?» Donc là, c'est « Où je » en l'occurrence, mais ça, c'est très typique. Et puis, le roman à la première personne. C'était le genre.
Oui, alors peut-être qu'on en trouve aussi à la troisième personne. Hein. Là, j'ai pas d'exemple précis, mais c'est vrai qu'il y a des motifs picaresques qui sont repris. Le mouvement, le côté un peu insouciant, oisif de ces héros qui déambulent finalement sans grand but, en tout cas sans but très marqué. À part ce congrès, et puis bien sûr le côté un peu rixe d'auberge, rixe généralisé où tout le monde se tape sur la gueule, ça c'est quelque chose que j'aime bien, qui était déjà le cas aussi des romans de chevalerie, qui était aussi le cas des romans même rabelaisiens ou même encore au XVIIIe siècle, on trouve encore des traces chez Diderot, dans Jacques le Fataliste, où au fond à tout moment il se prend une balle, ou il se prend je sais pas quoi, une flèche, il titube, enfin il y a cette idée d'une bagarre, souvent la bagarre a été un peu dévalorisée dans la littérature, ou alors sous une forme très dramatique, et j'ai envie de rompre avec ce dramatique un peu facile et ce pathos un petit peu qu'on a hérité du 19e siècle, mais je pense qu'on n'a pas hérité forcément les bonnes choses dans le 19e siècle, et qu'à voir les livres qui ont celui qui a le prix Goncourt, c'est joli, hein, c'est bien fait, mais enfin ça reste un peu du misérabilisme facile.
On a le droit de faire du roman classique quand même, Quentin Mouron.
Oui, bon, bien sûr, non, mais on peut faire ce qu'on veut, hein, je veux dire, chacun gère comme il veut, mais c'est vrai que, en tout cas, je pense que c'est pas ça qui donne un nouveau souffle à la littérature.
En tout cas, vous revendiquez le droit à la farce, hein, parce que j'ai vu qu'on parlera peut-être un petit peu des réactions de presse après, mais on vous taxe assez facilement de facilité, ce qui a logique, bah c'est oublier Apollinaire et les 11 000 verges, c'est oublier San Antonio, c'est oublier, ou peut-être ne pas les avoir lus. On a le droit à la farce.
Les avoir lus, mais Apollinaire, c'est très bien, parce que comme il a écrit des poèmes magnifiques, on peut toujours citer, il y a toujours une vague blonde avec des longs cheveux qu'on peut mettre à la place du caca, et donc ça aide, hein, ça fait vraiment, ça, c'est une sorte de cache-sexe. Mais en effet, Apollinaire, il y a quelque chose de très scatologique. Chez d'autres auteurs aussi, même chez Corneille, Céline. On trouve quelques traces, si j'ose dire. Céline, alors évidemment, Céline, même chez Gombrowicz, c'est vraiment quelque chose, chez Joyce aussi, c'est moi ces auteurs-là qui m'intéressent, parce qu'au fond ils essayent de décloisonner le roman, ils poussent le roman plus loin. Or j'ai un peu trop l'impression, en lisant mes contemporains, mais pas tous, comme ça je peux toujours dire que c'est pas d'eux que je parlais, qu'au fond, il recloisonne le roman, qu'il essaie de l'enfermer avec tous ses méthodes d'écrire, hein, ses ateliers d'écriture. On dit, alors là, il faut composer un personnage, et puis il faut qu'il ait une histoire, ce personnage, puis des cheveux, puis une barbe, et puis au fond, on s'en fout. On parle de la grand-mère d'un personnage.
Vous avez des très bonnes critiques, vous en avez aussi des mauvaises, et dans les mauvaises, finalement, ça résume ce que vous essayez de dire dans ce livre, c'est-à-dire qu'on vous. Parce que je l'ai lu attentivement, il y a quelques pipis, il y a quelques caca, il y a quelques passages de sexe, mais vraiment peu. C'est vraiment pas l'essentiel du bouquin, et c'est là-dessus qu'on vous accroche. Donc c'est peut-être le symbole même de ce que vous dénoncez ou ce que vous décrivez dans ce livre, c'est-à-dire une écume des choses, un politiquement correct qui serait pris sur un mot. Oui. À notre époque.
Oui, je crois qu'il y a 2-3 flaques d'urine sur lesquelles on glisse peut-être trop facilement, alors que finalement, je crois que le fond est ailleurs, me semble-t-il. Mais autant, c'est pas seulement du poivre comme ça ou de l'épice gratuite que j'ai mis là. Je pense que ça fait partie de ce monde de la farce. Mais dans la farce, il y a aussi tous les coups qu'on se donne. Il y a aussi un jeu sur la langue aussi, sur une espèce de un flux langagier aussi, dans certaines déclarations des personnages, avec ce pasteur philosophe là qui égrène tous ces philosophes obscurs pour parler de choses extrêmement triviales. Ça fait aussi partie du langage d'une époque que j'ai aussi essayer de circonscrire, notamment par l'usage de l'italique, en essayant de me glisser dans des langages, et je crois que c'est vraiment ces langages actuels, avec tout ce qu'ils peuvent avoir d'idiot, avec tout ce qu'ils peuvent avoir de réducteur, avec tout ce qu'ils peuvent avoir d'automatique, qui m'ont intéressé beaucoup plus que quelques saillies scatologiques qui restent, mais peut-être parce que voilà, c'est aussi chacun a ses obsessions et chacun a dépassé son stade anal comme il le peut.
On va essayer de dépasser le nôtre, le temps d'une petite interruption, on se retrouve juste après.
Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. Les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important.
On va commencer.
C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles.
Nous avons 20 ans et plein de chansons.
Vesoul, le 7 janvier 2015, avec notre invité Quentin Mouron, l'auteur de ce livre. Ce ce livre qui résume un petit peu notre époque. Et puis, bah, le 7 janvier 2015, on s'en souvient, c'est le jour des attentats de Charlie Hebdo, hein, de Charlie. Et du coup, cet événement est venu frapper votre récit, en fait.
Oui, je crois que le livre était déjà... J'avais déjà commencé quelques ébauches, mais c'est vrai que c'est un événement étonnant, bien sûr tragique, mais aussi étonnant à plusieurs titres. D'une part, c'est un des seuls événements de ce type où il y a vraiment, non seulement bien sûr, une réaction mondiale, hein, une réaction de tristesse, ou moins de tristesse apparente, et puis en même temps aussi une réaction de liesse quand même assez conséquente. Et pas seulement chez des salafistes obscurs, hein, vraiment sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui, peu de temps après les attentats, non seulement il y avait bien sûr toutes les théories du complot, mais ça suit comme son ombre, chacun des drames qui se produisent particulièrement en France, mais aussi toute cette question de, voilà, bah, c'était Charlie, qui, c'était pas seulement Charlie, c'était les élites, c'était les journalistes, c'était qui finalement, c'était une revanche. On a presque interprété ça d'une manière un peu proto-gilet jaune parfois, hein, sur certains, certains comptes Twitter.
Vous avez lu Emmanuel Todd ?
Non, j'ai pas lu Emmanuel Todd.
Qui a la théorie justement d'une dérive un peu droitière, hein, du Je suis Charlie, c'est-à-dire que le...
Alors oui, bon, déjà parce que la moitié des gens qui ont marché dans Paris étaient des dictateurs, hein, faut pas oublier que la grande marche du dimanche,
je sais pas quand, par le pouvoir, ouais.
Je crois que la moitié avait quand même fait fusiller des journalistes, donc c'est vrai que déjà c'était, bon, ils y allaient pas eux-mêmes, donc on peut voir une sorte de différence, hein, mais après ça, déjà c'est un événement étonnant, c'est un événement frappé à la fois par une forme d'absurdité, surtout au fond les réactions, parce qu'au fond c'est ce qui m'intéresse plus que les attentats eux-mêmes, c'est la réaction immédiate et juste après, au fond, de ces fameux attentats. Donc c'est surtout la réaction qui m'intéresse. Et là, c'est vrai que c'était marqué quand même par une certaine, un certain grotesque dans certaines réactions. Et ensuite, ce qui m'a aussi intéressé, c'est que ceux qui ont frappé, c'était pas Daesh qui essayait de faire leur État islamique ancré, c'était Al-Qaïda qui, au contraire, s'est toujours opposé à la notion d'État pour fonder, au fond, une sorte d'immense État mondial, d'empire mondial. Et donc, il y a aussi une idée chez Al-Qaïda de mondialisation qui répond, au fond, au thème de mon livre.
Ce sont les Al-Picaros.
Oui, en quelque sorte, les Al-Picaros, exactement.
Mobiles, ils sont hyper connectés.
Oui, alors, ils sont hyper connectés, ils sont extrêmement mobiles et ils peuvent frapper partout, ils peuvent être partout en très peu de temps. Et ça, c'était maintenant ils ont décliné, mais c'était la marque de fabrique quand même d'Al-Qaïda, qui était au fond une sorte de double maléfique de mes Picaros gentils, souriants, qui vont à des festivals sur les sexualités inclusives. Donc là, je pense qu'il y avait vraiment un lien, il y avait une charge de sens quand même qui était très forte autour de cet événement et beaucoup plus que d'autres attentats qui ont aussi ensanglanté encore plus gravement la France, mais parce que c'était un événement très médiatique qui s'est vite vécu comme du divertissement avec cette marche dans Paris, avec ses réactions en cascade, avec
des hashtags.
Oui, et le soutien du Hamas et du Hezbollah qui ont dit qu'ils étaient choqués par les attentats. Enfin, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin, hein, quand on retrouvait dans la foule des gens qui avaient vraiment fait torturer des journalistes. C'était bien sûr étonnant et en même temps, c'était vraiment un grand moment de divertissement. C'était une sorte de télé-réalité tragique à l'échelle planétaire. Et ça m'a bien sûr beaucoup intéressé puisque je travaillais justement sur la question des langages aussi et du ridicule de certains tics de langage contemporain.
Quand vous parlez de Charlie, vous dites, enfin le narrateur dit, hein, bah Charlie, voilà, je sais que ça existe, je ne l'ai jamais acheté, je l'ai rarement lu. Pour moi, c'est une bande de rigolos qui se moquent de la religion, ce qui est l'opinion de la majorité des gens. Enfin, je veux dire, ça va être quand même des ventes assez, on va pas dire petites, mais raisonnables, Charlie Hebdo. Et puis, bah, vous décrivez tout ce qui pourrait justifier finalement l'attentat de Charlie, c'est-à-dire un monde qui s'enfonce dans une censure joyeuse, où on enlève la clope de Prévert ou de Gainsbourg dans les affiches du métro, vous le citez pas, mais enfin c'est ça, on refait l'histoire pour qu'elle soit correcte.
Oui, et je pense qu'on a refait l'histoire avec Charlie aussi, parce qu'au fond, on a essayé de gommer certaines choses, on a oublié au fond ce qu'était aussi Charlie Hebdo, et j'étais peut-être un des derniers lecteurs avant les attentats. Donc moi, j'ai toujours bien aimé ce côté humoristique, cette espèce de côté un peu gras, et puis on y va, et on n'a pas peur. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que l'émergence des réseaux sociaux a aussi beaucoup modifié ces choses-là. Déjà, ça a modifié aussi la perception des attentats. J'ai dit tout à l'heure avec ces réactions sur Twitter de gens très heureux. Avant, ça se faisait dans les bistrots. Donc bon, le patron disait « Écoute, t'as trop bu, fous le camp. » Et puis ça se réglait là. Après, voilà, on retournait chez soi un peu bourré. Et c'était la même chose pour Charlie. On le trouvait, on l'achetait en kiosque, on le lisait. Si on aimait rire et qu'on aimait cet humour-là, on le lisait. Si on l'aimait pas, on le lisait pas. Comme un livre de philosophie. Mmh.
Et on n'a pas. Aujourd'hui, tout le monde peut parler de Charlie et de tout et de n'importe quoi.
Surtout comme c'est des images, en fait, on voit ça, puis on sent tout suite comme agressé et concerné, alors qu'au fond, on n'a pas été lâcheté, on n'est pas des clients, mais c'est vraiment ça, c'est le côté aussi réseaux sociaux, c'est que ça pousse aussi les gens à, bien sûr, avoir un avis sur tout, souvent à mauvais escient, bien sûr, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, il faut absolument être spécialiste d'un peu tout, tout se recroise, et ça, c'est assez fascinant. Je sais pas si. Là, je m'éloigne un petit peu du sujet, hein, mais je sais pas si vous suivez la série. Moi, j'adore les sections commentaires des articles de presse sur les réseaux sociaux, parce que, bon, il y a tous ceux qui se tapent dessus, mais aussi toujours ceux qui. En fait, qui réagissent complètement à côté, c'est-à-dire qu'ils réagissent sur un autre article, mais sous celui-là. Donc, au fond, ça fait un croisement d'informations. Bien, ils recopient des articles d'un autre journal qu'ils mettent dessous. Donc, au fond, ça fait un croisement d'informations et qui est en fait la négation de l'information. C'est-à-dire, quand même, d'une certaine, j'allais dire, quantité sémantique ou d'une certaine qui nous arrive, qui nous parvient, on prend contact, on la digère et puis ensuite on la comprend, on ne la comprend pas. Là, au fond, il y a une espèce de brouillage total et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et ce brouillage-là, j'ai essayé de le faire ressortir à Vesoul parce qu'au fond, on voit tous ces personnages qui sont complètement hétérogènes, qui s'intéressent un peu à la carte végane, mais qui ensuite mangent une joue de bœuf, et puis qui ensuite vont à une fête des sexualités, puis qui finalement optent pour l'abstinence. Enfin, on est dans cette espèce de grand brouillement, cette inconséquence générale, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse.
Vous croisez, enfin, vos héros croisent un festival de poésie, étonnant d'ailleurs, hein, sur à l'entrée du festival, il y a une banderole, la poésie rend libre, et juste à côté, il y a un cordon de CRS, hein, c'est une jolie trouvaille de votre part. Bon, la page 39-40, j'ai noté ça. Pierre Reverdy, poète surréaliste, avec cette phrase « Le rêve est un houmous à la crème de soja ». On s'étonne, hein ? Lourd, hein, le rêve est un houmous à la crème de soja lourd qui pend au plafond. Et donc, le vers initial, c'est un jambon, évidemment. Hein, le rêve est un jambon à la lourd qui pend au plafond, pas à la crème de soja. Puis ça se transforme en gigot parce qu'on ne veut pas faire de mal aux minorités musulmanes ou juives qui ne mangent pas de porc. Puis ensuite, les véganes, les végétaliens entrent en scène pour dire que ce n'est pas possible de mettre un gigot. Et ça se transforme en houmous à la crème de soja. Où finalement, c'est ce que je disais, c'est une censure heureuse. On a fait plaisir à tout le monde et on est content.
Oui, généralement. D'ailleurs, c'est le bienfait de la censure. La censure, avant d'être... Pourquoi est-ce qu'on utilise la censure ? Au fond, c'est pour soulager la majorité contre une agression de la minorité, en général. Hein. C'est comme ça que ça s'est vécu pendant des siècles. C'est-à-dire qu'en brûlant un seul type, on soulageait une stabilité politique, on s'arrogeait le droit de vivre mieux et d'apporter à la majorité une sorte de calme et de soulagement. C'est-à-dire qu'on empêche qu'il soit dérangé ou qu'il soit agressé par quelque chose. Ce qui est amusant, c'est qu'on passe des fois la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'on va au-devant de revendications qui n'ont jamais eu lieu, en fait, et très souvent dans la censure. Hein, ce sont pas souvent des associations communautaires qui demandent ces interdictions, ce sont parfois simplement des gens qui pensent que ces associations vont les demander alors qu'elles s'en foutent complètement. Ou alors, ça vient d'une
c'est
minorité
comme les baisses fiscales,
extrêmement...
en fait. Les riches les demandent pas, mais on pense qu'ils vont partir. Si
oui, parce que c'est vrai que c'est un peu ça, oui, voilà, exactement. mais c'est vrai que c'est un excellent parallèle aussi. Oui, tout à fait, ils ne demandent pas, alors ils s'en foutent un peu, ils savent peut-être même pas qu'il y a cette possibilité-là qui existe, mais on l'a leur fournit, parce qu'on dit, mais tiens, je suis sûr qu'ils vont demander, mais ce n'est pas le cas. Et je crois que c'est un peu pareil pour la censure, on se représente toujours l'autre comme un espèce de nid de tension et de susceptibilité que parfois il n'a pas, et même parfois, s'il peut être dérangé, on peut aussi discuter, on peut aussi encore, j'espère, s'asseoir et discuter, et souvent les gens comprennent aussi hein, pour certaines choses. Donc là, je pense que c'est une sorte de susceptibilité, mais projetée, c'est-à-dire que peut-être qu'en fait, notre propre subjectivité et pas forcément celle de ces associations communautaires-là.
Guillaume, c'est à vous.
C'est à moi. Deuxième chronique du jour. D'accord. Pas de transition. j'ai pas lu Emmanuel Todd non plus, mais j'ai lu votre CV, Quentin Mouron, et ça m'a frappé au visage dès la première lecture. Je me suis dit, tiens, cool, il a de l'humour, car l'aliment qui vous rappelle votre enfance, c'est la poutine. Ah, c'était sérieux. Ok. Bon. La dernière fois que j'en ai vu de la poutine et que j'en ai senti de la poutine, c'était au Paléo l'été passé. Et quel souvenir, mon Dieu. Même Bernard Lavillier, je l'avais trouvé plus appétissant. Donc, c'est dire. Bon, ça colle très bien avec l'aspect festif du festival, hein, puisque la poutine est réputée pour être un bon moyen de se remplir l'estomac avant une soirée bien arrosée, avant une journée bien arrosée, si on est Christian Chulet. Je disais. La poutine est un bon moyen de préparer la couche de fond, tant mieux. Et tant qu'à faire, s'il faut vomir sans souper parce qu'on semble ivre, autant qu'il ait le même aspect à l'aller qu'au retour. Le choix de la poutine est donc valable dans ce cas-là seulement. Mais je ne me suis pas arrêté seulement là. Je ne tremble pas face à la poutine, elle ne me fait pas peur. Mais quittons la légèreté, attention. Parce que craindre la poutine et ses saveurs, c'est une chose. On peut redouter que la poutine nous emmène vers ses goulas. Mais moins craindre que Poutine nous emmène vers ses goulags. Que dire si la poutine, elle, nous fait dans certains cas gerber c'est toujours moins terrifiant que certains du KGB. Et puis, l'assaut, sa mère brune, sous-entendons-nous les cris du crime, et l'assaut de la mer noire, entendons-nous les cris de Crimée. Si la Poutine beaucoup lui crainte, c'est toujours mieux que Poutine qui l'Ukraine. Craindre la Poutine, craindre Poutine, ces mots dérangent. Ces mots font trembler, ces mots secouent. Oui, ces mots secouent. Mais à un enfant ukrainien, comment aurait-on réussi à ôter ça de son crâne, de sa mémoire? Comment faire si la Russie avait ôté Odessa de son Ukraine et de sa mer noire? Vous, Quentin, la Poutine et l'orgasme, c'est kiff-kiff. Là-bas, c'est pas Poutine qui kiff-kiff, c'est ainsi. Et c'est vrai que c'est bon, la Poutine, c'est raffiné, la Poutine. C'est une île dans l'archipel de la gastronomie. Pour preuve, aucun restaurant gastronomique chablaisien en propose. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais le même mot Poutine rappellera un épisode de votre enfance joyeux et doux. Que rappellera-t-il ce même mot-là à un enfant ukrainien dans quelques années? Mystère.
Eh ben, gravité.
Gravité gastronomique.
Frites au fromage avec quoi dessus? Une sauce improbable.
Avec la sauce brune.
Sauce barbecue.
Mais c'est pas tout à fait la sauce barbecue qu'on imagine ici. C'est une barbecue. C'est plus brun, justement, plus brunâtre et c'est plus liquide aussi. C'est une sorte ce qu'on appelle la filante.
Des petites parcelles de
la filante.
Des petites parcelles de bonheur, en tout cas. On va écouter un peu de musique. Vous nous avez proposé David Bowie. C'est pas très étonnant, Quentin Mourin. Mourant, décidément. Ça s'appelle Outside, on se retrouve juste après. Outside. On pourrait dire qu'il est radicalement osé de couper la chic à David Bowie, mais on vit dans un monde où ce genre de bassesses sont possibles quand t'as Mourant.
Oui, puis quand on a mieux qui suit, il faut couper Bowie.
Bon, vous décrivez, je l'ai dit, l'incongruité du monde, c'est tous ces groupes qui revendiquent des tas de choses. J'ai noté d'ailleurs chez les Picaros, chez ces gens très bien intégré dans la mondialisation, cette tendresse qu'il y a à regarder les autres, ceux qui ne le sont pas, hein, notamment les agriculteurs. On a un phénomène un petit peu Disney World, comme ça, on regarde les agriculteurs comme on va au parc Mickey.
Oui, et puis en plus, ils viennent généralement. Moi, qui suis de Lausanne, c'est très bien parce qu'ils viennent tous les samedis, on peut les regarder un moment, c'est très agréable au marché. Et puis, bien sûr, c'est je pense que c'est vraiment cette séparation de deux mondes qui est à la fois. Qui est inquiétant aussi mutuellement, où les gens s'inquiètent mutuellement, et puis en même temps il y a cette fascination, et particulièrement cette fascination pour le picarisé ou le picaro ou le mondialisé face à tout ce qui est sédentaire. On le voit parfois dans certains aujourd'hui encore avec cet affrontement avec les gilets jaunes, on voit chez certains commentateurs pourtant bienveillants, mais une sorte de bienveillance qui est tellement poussée à l'extrême, qui est presque...
Qu'elle devient méprisante.
Oui, c'est presque ouais. Une sorte de mépris, ils sont rigolos, on a l'impression quand ils en parlent, on a l'impression que c'est vraiment les paysans décrits par Balzac, où ils n'ont plus de dents, ils ne savent pas lire, ils se tapent dessus à coups de fouet.
Je disais que ces picaros, ils n'étaient pas forcément...
C'était Hollande qui me disait ça.
Oui, c'est vrai. Ouais, sans dents, ouais. Ils ne sont pas forcément heureux. Hein. Ils ont l'apparence du bonheur, ils ont l'affirmation du bonheur. Ils vont chercher dans le feng shui et la macrobiotique de quoi donner un sens à leur vie. Mais c'est bien ça, en fait. Il faut aller trouver, puisque l'économie n'a plus de sens, il faut aller trouver un sens à sa vie.
Je ne sais même pas s'ils cherchent un sens à leur vie, mais c'est vrai que l'avantage, c'est comme le monde est ouvert, on peut emprunter un peu au monde entier des petits morceaux de sagesse et des petits morceaux de sens de vie, c'est-à-dire qu'on a... On a des massages chinois, on a des massages thaïlandais, des petites nourritures. La nourriture est vraiment aussi quelque chose qui est très important. Ça remplace à peu près le sexe, la messe, enfin à peu près toutes les anciennes institutions et les anciennes activités
oui,
qui donnaient du bonheur.
Table,
oui, justement, voilà. Je pense qu'il y a autour de l'alimentation aussi chez le picaro quelque chose, un souci extrême de son alimentation. De
le gigot cuit dans le four, pardon, le houmous.
Le houmous, voilà, exactement, le houmous à la crème cuit. Donc tout ça, je pense que ça fait partie d'une tentative de se retrouver une foi en quelque sorte, ou de retrouver en tout cas quelque chose en quoi croire, qui doit nous donner du sens. Et je pense que ce sont des gens en tout cas qui essayent de donner du sens à leur vie, mais peut-être à une vie qui n'a plus de sens. Et peut-être que c'est d'ailleurs trop tard, hein. Peut-être même que le bonheur, c'est déjà une ambition un petit peu trop élevée pour nous, dans le monde dans lequel on vit. Mais je veux pas partir sur une note trop basse, puisqu'en plus la messe vient de nous ragaillardir.
Vous décrivez en tout cas une décadence dans ce livre, Vesoul, le 7 janvier 2015. On se requitte le temps d'un instant et on se retrouve pour la fin de cette émission.
Les Barbouzes. Une histoire presque vraie et profondément humaine.
Radio Chablais. Les Barbouzes.
Les Barbouzes, pour une dernière partie de cette émission avec notre invité Quentin Mouron et ce livre description du monde, Vesoul, le 7 janvier 2015. J'ai remarqué un retournement des causes, moi je trouvais ça rigolo, parce que alors je l'ai dit, hein, ils croisent toutes sortes, dans leur pérégrination, toutes sortes de groupes, des véganes, des nains, des nazis, le Hezbollah, puis il y a presque un retournement des causes où les nazis et le Hezbollah sont finalement assez raisonnables, assez sympas, ils veulent s'intégrer, ils veulent qu'on reconnaisse leurs différences. Et puis alors, les turiféraires de la paix dans le monde, eux, ils sont prêts à tabasser et à en découdre.
Oui, ce qui s'est souvent produit dans l'histoire, hein, où tout d'un coup, les porteurs de l'égalité et de la libre parole se sont mis à rétablir la démocratie à coups de tapis de bombe. Donc au fond, ça, c'est des choses, des renversements qu'on voit assez régulièrement dans l'histoire même récente. Et puis oui, je pense que il y a au fond cette manière aussi de montrer un monde où tout est interchangeable en quelque sorte, où c'est-à-dire que on a un rôle, ensuite on change, il y a une espèce de perméabilité totale, surtout dans ce monde picaresque. Et c'est aussi de montrer de voir que ce monde picaresque, il fonctionne aussi comme une éponge. Il intègre en quelque sorte toutes les différences, il les traite presque d'une manière médicale. Et puis à la fin, ce sont plus que des petites différences sympas, des différences républicaines, hein, des différences dédiabolisées, comme je le dis en parlant du Hezbollah. Donc ça s'intègre à un discours général, ça s'intègre à une marche pour la paix, et puis tout le monde est copain, en tout cas un petit moment.
Et c'est heureux, c'est le monde dans lequel on vit.
Oui, je crois que c'est heureux, en tout cas, c'est une forme de sérotonine.
Bon. Ah, tiens, citation du nouveau titre de Houellebecq, on vous compare à Houellebecq, là vous l'avez cherché pour le coup, je voulais pas vous parler de Houellebecq, mais...
J'aime bien Houellebecq, moins passionné par son tout dernier livre, qui m'a beaucoup moins plu que les précédents, mais oui, Houellebecq est un auteur que je trouve très intéressant, je pense qu'il y a en tout cas une tentative de compréhension du monde, d'une hypothèse littéraire qui pose sur le monde qui est intéressant, comme Aurélien Bélanger que je préfère encore, qu'on a appelé le baby Houellebecq pendant longtemps, qui est un de mes auteurs contemporains préférés.
Bon, vous êtes peut-être un baby Houellebecq à votre tour. Après tout, il y a des filations qu'il faut savoir accepter.
Absolument.
Bon. Mathieu Bessereau-Belty, c'est votre tour.
Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon pote Raphaël?
Non.
Non. Ah bah c'est con parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien. Bon, enfin bref. Aujourd'hui, je vous parlerai de Nicolas.
Okay.
Nicolas, le petit Nicolas.
Celui que j'aime pas.
Le petit Nicolas, comme on l'appelait à l'école. Alors, si je voulais vous parler de Nicolas aujourd'hui, c'est que, comme vous, Quentin, Nicolas a toujours aimé les femmes. Et je pense qu'en plus, il aurait fait un magnifique personnage de vos romans. Alors, je ne sais pas comment vous aimez les femmes, mais Nicolas, il les aimait avec de grands P. Oui, de grands P, comme grosse poitrine, belle plastique, avantageux postérieur. Il ne s'attachait guère à leur grand cul, comme quotient intellectuel élevé, quotidien passionnant, qualité de la relation, ou quel que soit leur âge et leurs questions existentielles. Non. Nicolas, il nous impressionnait enfant, hein, parce qu'à 6 ans, il connaissait déjà Brassens par cœur, notamment et surtout Fernande, Le Gorille et Brave Margot. Et nous avions l'impression à ses côtés de découvrir les plaisirs secrets que nous dissimulaient nos parents. À 9 ans, c'était Gainsbourg. Vers 12-13 ans, il avait lu Sade. Et à 15 ans, il connaissait par cœur les répliques de Rocco Siffredi dans Les Bruits de ma mère ou Matraquage élastique à Paris. Là, il nous impressionnait vraiment, Nicolas, vraiment. Et il disait à qui voulait bien entendre, j'aime les femmes et quand je serai grand, je serai gynécologue. Et nous salivions tout en sachant pertinemment que les études étaient beaucoup trop longues et qu'aucun d'entre nous, à part lui, avait l'intention de passer 25 ans en faculté de médecine, puis 12 ans comme assistant et finalement 5 ans en spécialisation. Mais Nicolas, lui, avait la foi, le dévouement collé au corps, enfin c'est ce que nous croyons, mais l'avenir nous apprendra que ce n'était absolument pas la mission sanitaire qui l'intéressait, mais bel et bien être un amant missionnaire qui titillait ce brave Nicolas. Alors il a eu du succès avec les femmes, hein, ses clientes surtout, jusqu'à ce qu'un mari un peu trop jaloux, pas très ouvert d'esprit et très consciencieux, décida de lui briser sa carrière de Don Juan. Alors à cause ou grâce à ce casse-couille, Nicolas a dû se reconvertir au chant lyrique et il a fait une très belle carrière comme castrat. Oui, la concurrence n'existe pas, enfin n'existe plus. Et il sillonne le monde de concert, d'opéra en apéro et il passe ses vacances au Boukistan, par nostalgie certainement. Et on entend encore parfois Nicolas quand il rentre au village entre deux tournées fredonner « Quand je pense à faire » et ils font en larmes avant de rentrer chez sa maman.
Et oui, Nicolas aimait les femmes et j'en ai rencontré d'autres sur ma route, des hommes qui aiment et qui aimaient les femmes. Mais étonnamment, j'ai rarement rencontré des femmes qui aimaient les hommes. Enfin, je veux dire, qui aimaient tous les hommes. Hein. Les femmes, en général, elles aiment plus un homme, plus un homme, plus un homme, plus un... Même ma voisine qui en aime un par semaine, elle
mais
se souvient...
Mais la même semaine ouais,
c'est non, ça, non, ma voisine, elle en aime un par semaine. Hein, mais elle se souvient du prénom de chacun et se refuse à dire qu'elle aime les hommes. Elle aime faire l'amour, ça c'est sûr, mais pas avec n'importe qui. Elle aime faire l'amour avec Alfred, avec Albert, avec Jean-Claude, avec Julien, avec Kevin, Non, c'est étonnant, non ? Cette manière de préférer l'humain au genre, hein, la personne au sexe. Enfin bon, moi tout ça, ça me dépasse. Perso, j'aime pas les gens. Hein. Et je dis ça, c'est pas absolument vrai. Hein. Il y a des gens que j'aime bien, plus ou moins, pas trop longtemps. Vous, par exemple, hein, une heure par semaine, j'adore. Ma belle-mère par téléphone, c'est supportable. Et puis mes enfants, bon, mes enfants, c'est un peu différent. Je les aime bien, mais c'est aussi parce que je sais qu'à 10 ans, je les enverrai dans un internat et qu'il ne me reste plus qu'une année ou deux à les supporter. Alors c'est vrai qu'à 15 ans, Nicolas me faisait rêver, aimer les femmes, les aimer toutes, même l'une après l'autre, 3 par 3, 12 par 12. C'était hyper excitant comme idée. Mais aujourd'hui, force est de constater que j'essaie d'en aimer une. Eh oui, une seule, de mon mieux, jour après jour, et c'est déjà pas mal. Et je dirais même que c'est assez mal comme défi à relever. Voilà. Alors, la semaine prochaine, je vous parlerai des illusions perdues, pas les miennes, mais celles de Balzac, et je m'en réjouis.
Ou de votre femme. Merci Mathieu. Vous avez fait un retournement là. Vous mettez j'aime les femmes au général, en général comme quelque chose de pas terrible. Alors qu'on vient d'avoir une polémique sur un écrivain, Yann Moix, qui déterminait quel genre de femme il aimait. Puis ça a pas plu. Hein.
Non, mais c'est vrai. Moi, j'aime pas les gens d'une manière générale. Donc je ne peux ni aimer les femmes ni les hommes à part vous évidemment.
Mais oui, mais les choses. Tiens d'ailleurs, vous êtes un écrivain Quentin Mouron. On l'a dit, hein, que la presse, en tout cas sur ce dernier livre, on aime bien aller chercher ce qui ne va pas. Il y a des gens qui aiment beaucoup aussi. Je suis sûr qu'on va vous mettre un jour ou l'autre, dans ce roman ou dans un autre, un petit scandale buzz sur le dos. Comment vous prenez ça ? C'est quelque chose qu'on cherche ?
Non, je ne cherche pas, mais s'il arrive, je suis prêt à me défendre aussi. Je n'ai pas tellement de problèmes avec ça. Généralement, je suis toujours sympa au premier abord. Et puis, s'il faut sortir une arme, je la sors, il n'y a pas de problème.
Elle est prête ?
Elle est prête.
Bon, il y a en tout cas des belles trouvailles dans ce roman. J'en avais une. Ah oui, voilà. Charlie, sa vie durant, avait tourné les religions en dérision. Il s'agissait maintenant de tourner la dérision en religion. Ça, c'est bien ce qu'on a trouvé avec Je suis Charlie. Hein.
Oui, fallait, je crois que ça, c'était la marque.
C'était devenu une religion que d'être Charlie.
Absolument, presque une marque commerciale. Au bout d'un moment, on savait plus ce qu'on était. On n'avait jamais lu Charlie, mais on savait qu'on l'était. Ce qui renvoie peut-être au mystère du moi humain et de la psyché, mais enfin c'est quelque chose qui est un peu étonnant, c'est-à-dire qu'on a tout d'un coup glorifié, à juste titre, bien sûr que c'est bien de glorifier des victimes, mais en même temps, sans forcément aller jusqu'à s'abonner ou jusqu'à les lire, ou jusqu'à en rire, parce que ça c'est quand même un autre pas, faudrait quand même s'intéresser, faut payer déjà, ce qui est un peu problématique, tandis que le statut Facebook est gratuit, et là forcément c'est évident qu'on était dans l'hypocrisie, particulièrement pendant les jours qui ont suivi.
On va bientôt se quitter, mais je parlais de la presse et des retours de la presse. Il y a l'Est républicain, alors ils ont probablement pas lu, hein, parce qu'ils ont fait un encart assez court où ils reprennent des éléments de langage du communiqué de presse.
Absolument.
Mais ils ne notent pas que vous les citez toutes les trois pages quand même. Hein.
Non, je pense qu'ils n'ont pas lu. Pourtant, l'attaché de presse leur avait dit.
Vous leur mettez sous la plume toutes les bassesses journalistiques qu'on peut trouver parfois avec des lieux communs, des facilités.
Oui, mais ça, c'est vraiment. C'est comme Vesoul, c'est un nom, c'est parce que c'est le journal qui est diffusé à Vesoul.
Dans ce point-là, ouais, bien
voilà,
sûr.
Donc l'Est républicain, c'est vraiment aussi une sorte de personnage mythique. Par contre, j'ai repris des éléments que j'ai mis là-dedans, que j'ai copié-collé d'articles de presse. Je mets un petit avertissement à la fin pour pas qu'on me fasse trop de procès, mais ouais, j'ai repris certaines choses.
Puis très rapidement, il faut dire que vous ne pointez pas là les journalistes, les gens, les hommes, les humains qu'aime tant Mathieu, mais bien un système qui fait qu'on doit aller vite, donc forcément on n'écrit pas toujours des trucs géniaux. Quoi.
Oui, voilà, alors je dis pas qu'il n'y a pas deux, trois couillons dans le lot, hein, mais disons, il y a quand même c'est vrai, la cadence fait que ben, comme dans tout métier, si on est forcé par une cadence, on travaille mal. C'est la même chose pour les soins, c'est la même chose pour à peu près tous les métiers.
Quentin Mouron, Vesoul, le 7 janvier 2015. Roman paru donc chez Olivier Moratel, éditeur, un éditeur qui a un pied en Suisse, un pied en France, c'est ça ?
Voilà, maintenant il est installé définitivement en France, mais il a encore de fortes attaches en Suisse et il publie quand même beaucoup de romanciers suisses.
Voilà, on souhaite en tout cas le plus beau succès à ce livre qui commence à prendre. d'ailleurs un petit peu en France. Il y a eu quelques coupures de presse, à part celle de l'Est républicain que je citais à l'instant. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous.
Merci à vous
et
pour cette invitation.
Bonne fin de journée. Les Barbouzes cette semaine, c'était Mathieu Bessereau, Belti, Guillaume Abbé, Christian Chulet à la technique, Jean-Luc. La semaine prochaine, nous célébrerons les 60 ans du droit de vote des femmes dans le canton de Vaud, 1959, longtemps avant le droit de vote en Suisse, il faut y réfléchir. Et puis nous recevrons pour cela une jeune politicienne vaudoise toute pleine de cet héritage, la députée Léonore Porcher. Bon dimanche.